collection Coffragan présente L'art du bonheur au travail de sa sainteté le Dalai Lama et Howard C. Cutler. Transformer l'insatisfaction.
Le Dalai Lama travaille du matin au soir. Il voyage sans cesse d'une ville à l'autre pour participer à des rencontres qu'il n'a jamais lui-même sollicitées. Et pourtant, peu importe la rigidité de son horaire, il semble toujours accomplir sa tâche sans effort, heureux même de s'exécuter. Il prétend toutefois ne rien faire. Lorsque j'ai insisté pour lui demander ce qu'il répondrait à quelqu'un qui persisterait à lui poser la question, il a ri.
Je répondrai sans doute que je m'occupe de moi, que je prends soin de moi. Cette réponse ne paraît peut-être pas très sérieuse, mais peu importe que l'on soit professionnel ou non, chacun de nous, de la naissance à la mort, ne faisons que cela, essayer de prendre soin de nous. C'est notre principale tâche.
D'accord, mais pour prendre soin d'eux, la plupart des gens ont besoin d'un emploi. Et je vous ai souvent entendu dire que le but de l'existence, c'est le bonheur. Par conséquent, il faut trouver le moyen d'être heureux au travail, aussi bien qu'à la maison. Et vraiment, ce n'est pas toujours facile. Dans bien des pays, partout dans le monde, l'insatisfaction au travail semble largement répandue. De fait, j'ai lu récemment une étude qui révèle que près de la moitié des Américains sont insatisfaits au travail, malheureux dans leur emploi. J'ai parlé avec des experts qui affirment que cette proportion est probablement plus élevée. Et la situation semble se détériorer. Selon le Conference Board, l'organisme à but non lucratif qui a conduit l'étude, celle-ci démontre que depuis les 5 ou 6 dernières années, le pourcentage des gens heureux au travail est tombé à environ 8%. Le Dalai Lama parut surpris et me demanda pourquoi. Je lui ai énuméré les diverses raisons mentionnées. Un climat social peu harmonieux, la monotonie de la tâche, l'absence de reconnaissance, de respect et de considération, l'insuffisance d'autonomie et d'espace pour la créativité ou l'initiative individuelle, le manque d'information et le contrôle incessant de la part de la direction. Certes, dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de grossière exploitation. Parfois, c'est la nature même du travail qui est exigeante. Lorsque l'économie est au ralenti, il arrive que les entreprises soient forcées d'effectuer des mises à pied, ce qui alourdit la tâche de ceux qui restent. Tout en admettant la particularité des situations individuelles, il cita l'exemple de certains prisonniers qui, malgré une absence totale de liberté, parviennent à une certaine paix de l'esprit grâce à des exercices spirituels comme la méditation.
Ainsi, je pense que les gens peuvent découvrir des moyens, même limités, d'aborder différemment leur travail. Il est évident que sur une ligne d'assemblage, un individu exécutera des tâches répétitives. Il a cependant le choix de ses interactions avec ses collègues. Il lui est possible d'utiliser ses qualités ou sa force spirituelle pour changer leur attitude, même si cela s'avère difficile. Je pense toutefois qu'un employeur qui surcharge ses employés affiche un manque de respect et de considération. Et dans un cas d'injustice, l'inaction n'est pas une réponse appropriée. Les textes bouddhistes mentionnent ce que l'on appelle la tolérance ou l'indulgence inappropriée. La solution n'est pas simple et des milliers de gens subissent diverses formes d'injustice. Nous devons par conséquent lutter extérieurement contre l'injustice et trouver en même temps des moyens d'y faire face intérieurement afin d'entraîner nos esprits à demeurer calmes pour éviter ainsi les frustrations, la haine ou le désespoir. C'est la seule solution. Nos croyances, peu importe lesquelles, peuvent nous aider. Mais l'intelligence humaine est aussi utile pour examiner la situation et l'envisager à partir d'une autre perspective. Il faut d'abord analyser résolument la question et se demander, en l'occurrence, si à long terme la colère ou la jalousie nous sont profitables ou si, au contraire, elles ne nous rendront pas plus malheureux. J'ai parfois remarqué plus précisément en Occident, une tendance à voir les choses uniquement en noir et blanc. Mais en réalité, tout est relatif dans la vie. En tenant compte de cette réalité, vous constaterez qu'un meilleur emploi et un meilleur salaire n'excluent pas les problèmes. Ainsi, en faisant un effort pour élargir vos perspectives, je crois qu'il est possible d'être plus heureux au travail. Un autre moyen d'y arriver, c'est de considérer la chance que l'on a d'avoir un emploi, alors que tant d'autres en cherchent. Nous avons tendance à oublier ce fait, mais je crois qu'y penser nous procurerait un certain sentiment de gratitude.
J'admis que nous étions possiblement privilégiés, mais en même temps, dans un pays comme le nôtre, bâti sur le principe de l'initiative individuelle, n'était-il pas normal de vouloir de l'avancement plutôt que de se contenter de la situation telle qu'elle se représente? Il me reprit.
Howard, vous ne devez pas confondre la satisfaction avec la complaisance. Si l'on possède les compétences et les habiletés nécessaires pour un meilleur emploi, il faut faire les efforts requis pour l'obtenir. Mais si on ne l'obtient pas, au lieu de s'enfermer dans sa colère ou dans sa frustration, il vaut mieux tenter de trouver des satisfactions dans celui que l'on a. Je crois que la personnalité d'un individu et son apprentissage du plaisir feront la différence entre la colère, le ressentiment, la frustration et une attitude plus calme et plus heureuse.
En l'écoutant, je comprenais pourquoi il avait si souvent insisté sur le fait qu'il n'est pas facile d'entraîner son esprit à changer d'attitude, et surtout ce que cela exige d'efforts continus pour y arriver. Il faut être véritablement convaincu du bien fondé essentiel de cette nouvelle perspective. Autrement, le danger existe de simplement l'utiliser comme une rationalisation trompeuse. De plus, lorsque nous sommes confrontés à cette solution, beaucoup d'entre nous hésitent à abandonner leur infortune. C'est un trait du comportement humain irritant et déconcertant que j'ai souvent observé par le passé avec mes patients en psychiatrie. Aussi misérables que certains individus puissent l'être, ils éprouvent souvent un plaisir pervers à se complaire dans leur indignation, s'ils s'estiment avoir été injustement traités. Ils cultivent leur peine et la portent comme une médaille. Abandonner une habitude familière, si destructive soit-elle, peut sembler menaçant, et cette peur est souvent inscrite au plus profond du subconscient. Ces gens pensent, ou du moins espèrent, que leurs récriminations attireront l'attention et la sympathie des autres. Ils oublient qu'elles risquent d'ennuyer ceux qui ont déjà leurs propres problèmes à régler. Mais comment par ailleurs se convaincre, hors de tout doute raisonnable, qu'un emploi plus important ne nous rendra pas nécessairement plus heureux? En faisant face à la réalité, en se demandant si notre bonheur est sans faille depuis notre dernière promotion, ou en observant si nos proches, qui occupent des postes plus importants, sont plus heureux que les autres. Une étude scientifique dirigée par Robert Rice, de l'Université de l'État de New York, a infirmé cette hypothèse. Elle a précisément démontré que la satisfaction au travail ne correspondait ni à l'importance du poste occupé, ni au prestige de l'emploi, mais à celle que l'on éprouve dans l'ensemble de notre vie. Ce à quoi le Dalaï Lama ajouta
« Il est impossible de vivre toute une vie sans affronter des difficultés. Rien ne nous satisfait entièrement. Le mieux nous serons capables de nous accommoder de la part d'insatisfaction, le mieux nous saurons composer avec les déceptions. C'est une erreur de considérer les choses d'une manière trop personnelle et d'en vouloir à tout le monde. Abordez-les sous un autre angle, plus vaste. Pensez aux nombreuses formes d'injustice. Peut-être pourriez-vous contribuer, même de façon minime, à un meilleur monde. Vos efforts produiront peu ou pas de résultats, et les choses ne changeront peut-être pas. Mais au moins vous aurez dirigé votre énergie mentale vers des choses plus constructives. Autrement, vous serez toujours malheureux, au travail et dans votre vie. »
Tout dans la personne du Dalaï Lama reflète la possibilité de mener une vie heureuse malgré les ennuis inévitables de l'existence. Il en a lui-même récolté sa part lors de la perte de son pays et de son exil forcé au moment de l'invasion et de l'occupation du Tibet par la Chine communiste. Et il éprouve quotidiennement des difficultés en luttant, souvent sans succès, pour préserver son patrimoine culturel, pour la liberté de son peuple, pour les droits de l'homme en général. Sauf que depuis l'âge de 6 ans, son esprit est entraîné à demeurer serein malgré les adversités inéluctables de l'existence. Il semble bien que cela ait donné des résultats.
Thank you.